S'il n'y a pas de questions, je vous propose de poursuivre le cours. Alors, nous finissions la fois dernière par signaler que l'organisme malade est impliqué dans l'apparition, le déroulement, la guérison de la maladie. Donc à ces trois étapes, il ne faut pas imaginer que... Dites-moi. Ah tiens.
Comme quoi. Ça fait parler, je me suis dit.
Merci de me l'avoir signalé. Merci. Donc, à ces trois étapes, il ne faut pas imaginer que le patient que vous avez en face de vous n'est pas impliqué d'une quelconque manière. Or, entendons-nous bien, une implication ne veut en aucun cas, et ne peut en aucun cas, conduire à une culpabilisation, de dire, mais dans le fond, la vue en psychologie médicale, que vous, monsieur, vous, madame, vous êtes quand même pour quelque chose dans l'apparition, dans le déroulement et dans la guérison de votre maladie. Donc il s'agirait d'en faire un petit peu plus. Ou, si vous êtes tombé malade, c'est quand même à cause de vous en particulier. Donc ça, c'est très malsain naturellement d'arriver à une réflexion qui serait culpabilisante, encore une fois, enfermant pour le patient. Cette implication vise plus à pouvoir intégrer comment, dans la vie singulière d'un individu, cette apparition peut être comprise, comment le déroulement ou l'impact de son déroulement va pouvoir être compris, ainsi que la guérison, quelles sont les forces en présence et qu'est-ce qui conduit un individu à être plus longtemps malade, ou à se considérer comme malade, ou comment va vivre l'apparition d'une maladie, et c'est quoi pour lui être malade, comment est-ce que ça fait une éruption dans sa vie. Alors, les maladies ici plus complexes, alors, cette notion de complexité est naturellement prendre entre guillemets, mais des situations qu'on considérait ici comme plus simples seraient relativement extrinsèques. Il y a un membre qui est cassé. On pourrait dire bon, c'est relativement simple, il faut le réparer. Et on sait que si le membre est cassé, c'est peut-être dans un certain contexte, donc c'est pas toujours si simple que ça. Mais on peut imaginer qu'il y a des maladies qui entreprennent par leur durée et par leur imprégnation beaucoup plus l'être qui en souffre. Ici, on parle des maladies psychosomatiques ou idéocorporelles, comme dirait un collègue psychiatre. Ce sont des lésions organiques vérifiables avec un déclenchement ou une évolution en lien avec des facteurs affectifs. Donc, l'asthme, l'ulcère, la rectocolite ulcéro-hémorragique, certaines maladies de la peau comme du psoriasis ou du vitiligo, enfin, il y a certaines choses qui peuvent évoluer en fonction de certains facteurs de stress et qui vont directement inclure, imprégner complètement l'être dans quelque chose de plus complexe. Il ne s'agira pas juste de trouver une cause et puis de se dire hop, ça c'est la solution et c'est fini. L'être qui en souffre est complètement plongé dans cette difficulté-là. Et il faut en tenir compte complètement. Et c'est le job ici du pneumologue, du gastro-entérologue, du dermatologue, de tenir compte de cette dimension-là dans son évolution, puisqu'il ne saura pas séparer les choses en disant « ça c'est ceci » ou « ça c'est cela ». C'est une complexité dans la mesure où on ne peut pas simplifier le malade a une composante de sa maladie. Les troubles fonctionnels, dans les troubles fonctionnels, il y a un besoin du malade d'être reconnu, de faire valoir ce qu'il a comme difficulté, d'établir un lien relationnel avec le médecin. Il y a souvent des revendications affectives profondes, des plaintes qui sont nécessaires pour leur équilibre. Alors, ce sont des problématiques similaires de tous ceux pour qui la maladie ou le handicap physique ou mental deviennent un objet de fierté, leur atout relationnel essentiel. Le manque devient un en plus, quelque chose en plus, une source de bénéfices, de toutes sortes, de biens, des droits que l'on peut revendiquer sans culpabilité ni honte. Alors, si
vous avez, j'imagine que j'étais attentif, vous avez déjà vu des places pour des personnes avec un handicap. Ouais, alors, vous avez déjà vu ce qui est mis parfois sur ces places-là? Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap, vous avez déjà vu ça? Allez.
C'est un peu violent quand même, quand on y pense.
Mais au-delà de ça, il y a une revendication. Alors, souvent c'est symbolisé par quel symbole ces places-là? Une chaise roulante. Et à votre avis, quelle est la proportion de personnes avec un handicap qui est en chaise roulante? Beaucoup ou peu? Très peu. Très très peu. Alors non seulement les personnes qui souffrent d'un handicap, alors oui, on décide, on dit un handicap physique, et puis on dit une maladie mentale. En France, il y a des Français parmi vous? Pas de Français? J'aimerais dire. Vous aimez bien les Français quand même? On dit un handicap physique et un handicap psychique. Donc le handicap est sur le même pied.
Ce qui n'est pas juste sémantique, puisque la reconnaissance de la maladie comme être handicapé, avoir une carte pour sa voiture, avoir une rente ou un revenu de remplacement pour être reconnu comme handicapé, avoir un certain nombre de points pour son handicap, donc ce sont toutes des éléments du parcours de la reconnaissance d'une personne qui souffre d'un handicap.
En fait, la même chose pour le handicap physique et psychique en France, mais pas en Belgique. On reconnaît l'handicapé physique, mais pas l'handicapé psychique. Donc, quelqu'un qui aurait du mal à marcher à cause d'une schizophrénie, par exemple, bah, il ne va pas forcément avoir autant d'avantages que
s'il l'a appliqué en France, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Je donne un exemple comme ça. Mais on voit là derrière que cela peut faire l'objet d'une revendication, et entre autres revendications, cette représentation de la chaise roulante est bien sûr totalement pointée du doigt par les handicapés, eux-mêmes, si on peut les dénommer ainsi, hein, personnes qui souffrent d'un handicap, parce qu'elles ne représentent absolument pas ce qu'est le handicap. Toujours est-il que dans cette représentation d'un manque, il manque la marche, ou d'un manque, prends ceci et puis tu prends ma place en plus, donc il y a une absence de fonctionnalité qui permet à l'individu de se montrer comme différent, ça devient une dialectique de la différence et donc de la revendication. Cette dialectique de la différence existant... Dans la vie quotidienne. Vous avez un exemple éventuellement? Alors, si vous suivez un peu ce que je dis. Est-ce que vous connaissez d'autres dialectiques de différence qui permettent d'exiger des choses dans la vie quotidienne? Pas d'autres idées? Du genre, par exemple. Les différents, on souffre de ceci, de cela, on peut exiger une reconnaissance particulière parce qu'on est différent. Pas forcément ici une maladie, mais c'est une dialectique qui va opposer des personnes d'un genre, des personnes d'un autre genre, voire leur déclinaison. Dialectique d'une difficulté d'apprentissage. Je souffre d'un... quelqu'un qui viendrait souffrir d'une dyslexie, d'un autisme, par exemple, va pouvoir avoir un aménagement raisonnable, pouvoir le revendiquer sur base de la reconnaissance de son affaire. Donc il y a un manque qui devient structurant, qui devient fédérateur pour l'individu par rapport aux autres, Parce que s'il manque la même chose chez tout le monde, ce n'est plus un manque par rapport, et le manque c'est toujours par rapport à l'autre, et qui permet quelque part de se positionner, de demander. Ça nous renvoie quelque part, bon, je digresse, mais c'est un petit peu le du coup, à cette notion de handicap. Vous savez d'où ça vient le mot handicap ? Il y en a qui font du golf ici ? Ouais, faites du golf ? Alors on parle de handicap au golf ? Ouais, et qu'est-ce que ça signifie au golf le handicap ?
Au plus il est petit, au mieux c'est.
Voilà. Et alors, il y en a qui font des. Il y a des cavaliers ou des cavalières ici ?
Oui, une personne qui fait du cheval. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? Vous avez des temps libres encore ou pas ? C'est là pour la question. Et donc, le mot de handicap vient du. De l'hippisme. Hein, du fait que l'on tâche. Et avant ça, ça venait d'un jeu anglo-saxon, puisque ça signifie littéralement, vous avez fait un peu d'anglais, « head in cap », hein, la main dans le chapeau. Il s'agissait d'égaliser des... Alors, il s'agissait d'estimer la valeur d'un objet, hein, en mettant une mise et puis en l'estimant, la valeur qu'a un objet. De là est venu le fait de pouvoir égaliser des chances en diminuant la capacité de personnes trop fortes par rapport aux autres. Donc le handicap, c'est quelque chose qui permet de normaliser la saine concurrence, une saine compétition en différents individus qui ne partent pas avec la même chose, en estimant la valeur qu'ils ont. Donc, quelqu'un qui est faible en, comment dire, qui est faible dans une compétition, quelqu'un qui est trop fort, on va l'entraver plus pour qu'il puisse commencer à un niveau équivalent par rapport à quelqu'un qui est faible. Et donc, on en arrive dans une mesure de quelque chose qui est ajouté pour pouvoir avoir une saine concurrence entre les deux. Dans cette notion de compétition entre différents individus ou compétences différentes, on en arrive aujourd'hui à dénommer la personne porteuse d'un handicap comme étant celle qui est ralentie, s'il s'agit d'un handicap lié à la mobilité, par exemple, par rapport à d'autres qui marcheraient normalement, pour reprendre cet exemple-là. Vous voyez comment cette notion d'estimation de la valeur d'un objet passée à l'estimation de la valeur d'un animal, et puis d'estimation d'une limitation chez l'humain, avec cette idée sous-jacente qui est extrêmement sportive d'une concurrence raisonnable et d'une compétition raisonnable en différents individus, en chargeant les individus les plus vaillants. On est donc dans cette normalisation également dans une forme de revendication. Et il faut maintenant, encore avec ce changement de sémantique, mais la valeur intrinsèque sous-jacente qui est cette équilibration des chances, quelque part, il faut diminuer ce handicap quand on va jouer au golf et vous allez partir avec un handicap plus élevé qui vous permet de plus facilement gagner avec d'autres qui sont plus expérimentés. Donc on va avoir cette mesure. Ça reste donc une mesure de comparaison et de compétition qui nous vient de l'estimation de la valeur d'objets en passant par les animaux pour en arriver à l'être humain. Donc c'est déjà particulier. Et
est restée dans cette tradition d'évaluation, selon certains vieux index, donc, entre autres le Bobby, c'est un index qui va évaluer les points de handicap, l'estimation du nombre de points qu'une personne va avoir en fonction de sa limitation. Et en fonction de son nombre de points, elle aura une rente. Et cette rente viendra quelque part en compensation de sa perte de fonction, mais est une estimation directe de la valeur perdue qu'elle a. Donc c'est une vision très particulière de l'humain, de sa fonction et même de sa capacité.
Il n'existe pas actuellement de moyen d'estimer la capacité de quelqu'un. Vous pourriez être, comme médecin, amené à faire juste des certificats de capacité, non pas d'incapacité. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a plus de jambes, bah, il est capable de faire des choses.
S'il n'a plus de bras, pas avoir de chocolat. Ça reste vrai. La capacité. Et donc, réfléchissez bien à ça, parce que c'est vraiment l'estimation de la valeur d'objets, puis d'animaux, dans une vision de la vie comme une compétition entre les humains, qui nous conduit à l'estimation et à la valorisation en fonction de l'impact structurel ou fonctionnel du handicap, que ça va avoir sur un humain individuel. On n'est pas dans une perspective de capacité, ce qui fait que le raisonnement même de la détermination du handicap entraîne à être relativement revendicateur. Si vous ne proclamez pas haut et fort que vous avez un handicap, que ça vous limite, que vous ne savez plus faire ceci, moins de points, vous avez moins de points, vous avez moins de rente. Ou vous n'aurez peut-être pas votre carte pour pouvoir vous parquer, etc. Donc, il y a un effet un petit peu pernicieux, pour le dire comme ça, à ce système qui peut entraîner, quelque part, toute une série de revendications et de l'identification donc, de droits, hein, où les gens vont demander des choses sans culpabilité ni honte. Alors, il y a une complicité entre le malade et sa maladie. Devant un même traumatisme, un organisme aurait plusieurs types de réponses possibles. Donc, dans quels paramètres dépendrait le choix de la réponse? En quoi et comment la personnalité du patient est-elle engagée dans ce choix? La psychologie médicale s'efforce d'apporter des réponses à ces questions. Alors j'imagine que vous êtes, déjà allé voir votre médecin traitant, une fois ou l'autre. Est-ce que vous avez déjà été pris d'une réflexion éventuelle en vous disant, mais tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire exactement? Est-ce qu'il va être d'accord avec ce que je lui montre comme symptôme, ou que je lui rapporte comme parole? Et comment, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire et attester de cela? Il s'agit d'une attestation, soit d'éléments subjectifs qui sont rapportés, donc de symptômes, c'est le nom consacré, soit de signes qu'il va observer, et puis sa compréhension de la situation, où tu ne vas peut-être pas poser les questions qu'il fallait, et puis il oubliera peut-être certaines choses, etc. Donc il y a toute cette limitation qui est liée à l'individu, à la rencontre à ce moment-là, etc. Et donc, La question de pouvoir être bien compris, bien reconnu dans ce qu'on va demander est absolument essentielle. Et c'est un moment aussi qui peut être la balance entre ce que l'on va décider pour soi ou décider pour autrui, ce qui va se voir fréquemment chez les médecins, à qui, si l'on demande à un médecin à partir de quel seuil va-t-il considérer un individu comme malade, à partir de quel moment va-t-il faire un certificat pour un individu, beaucoup, on va trop en
question qui peut être posée, c'est à partir de quel moment lui se considère comme en incapacité. Est-ce qu'il choisirait les mêmes critères? Est-ce que vous choisiriez les mêmes critères pour dire qu'un individu en face de vous est malade versus pour vous mettre vous en maladie? À quoi est-ce que vous allez être sensible et comment est-il possible d'être impartial là-dedans? Est-ce que c'est même légitime d'appliquer au patient une rigueur ou une laxité que vous auriez à votre égard? C'est-à-dire de vite considérer que vous êtes malade. D'ailleurs, vous êtes souvent absent, d'ailleurs, vous ne travaillez pas beaucoup. Ou d'être extrêmement strict, non, je n'ai pas une maladie, vous pouvez même aller travailler avec ceci ou cela. Donc, quelle serait la légitimité d'appliquer des choses qui seraient liées à vous? Donc, vous voyez que deux exemples de moments dans lesquels il peut y avoir un flottement dans la reconnaissance et dans la structuration d'une maladie. Alors ici, en bénéfice et expression, l'être humain aurait non seulement la possibilité de s'installer dans la maladie et d'en tirer bénéfice, mais plus encore, il aurait la possibilité d'exprimer par la maladie des tendances plus profondes. Genre de pouvoir s'autoriser lors d'une fatigue qui survient, si elle est structurée et reconnue comme un élément post-infectieux, de s'étaler complètement et d'aller à dormir beaucoup ou de ne plus rien faire parce qu'il y a un réveil. Comment se joue cette balance entre ce qu'on va s'autoriser pour soi, ce qu'on va s'autoriser pour faire passer un message à ses proches qui peuvent comprendre, qui peuvent ne pas comprendre, et ce qu'on va s'autoriser pour pouvoir signaler à la personne qui nous autorise, c'est-à-dire vous-même par rapport aux autres patients, qu'elle est dans le bon, qu'elle a raison. Du coup, on peut toujours se demander s'il n'y a pas des bénéfices à chaque maladie. Est-ce que vous n'exagérez pas à chaque fois que vous êtes malade? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que les gens qui viennent vous voir exagèrent? Enfin, qui viennent vous voir, qui viendront vous voir,
vont exagérer. Est-ce que vous, quand vous êtes chez le médecin, est-ce que vous exagérez?
Oui, moi aussi.
Je pense que si les gens font des déplacements chez le médecin, ben, en général, c'est quand même assez, assez grave. Quoi. Ça les dérange à un certain point.
C'est la question de la mobilité pour vous. Le médecin qui se déplace à domicile, et même le psychiatre qui se déplace en équipe de vie à domicile, ceux qui sont vraiment très malades, ils ne bougent plus. Hein. Mais il y en a qui viennent juste parce qu'il leur faut un papier ou il leur faut le certificat parce qu'ils sont en santé aujourd'hui et je me suis absenté aujourd'hui, il faut que je rende le certificat aujourd'hui, j'ai 48 heures, donc c'est peut-être purement administratif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être exagéré? C'est ça la question.
Il y a des enfants qui exagèrent pour ne pas aller à l'école, semblant qu'ils ont de la.
Ça peut être sous bénéfice secondaire, là, oui. Comment va-t-il être autorisé pour tenir compte d'un risque sanitaire pour le groupe, tenir compte de la situation de l'enfant, de sa famille, peut-être composée, de dissension, d'une aversion parentale éventuelle. Comment tenir compte de ça en 10 minutes lors d'une consultation? Est-ce qu'on va pouvoir se dire qu'il exagère ou pas, ou quelle décision prendre pour ne pas trop vite figer les symptômes.
Moi, j'ai l'impression que quand on va chez le médecin aussi, comme après, il faut reconnaître qu'on est malade, enfin, beaucoup de gens ne vont pas le faire, et donc ceux qui vont venir vraiment nous voir, certains vont exagérer, mais la plupart ne viendront pas parce qu'ils auront peur de ce qu'on va leur dire.
Enfin, je n'ai pas très bien suivi ce que vous avez dit.
Par exemple, Parce qu'il y a des gens qui ont laissé la vie traîner parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur dise qu'ils avaient un cancer. Et
oui.
Et du coup, ils ne voulaient pas chez le médecin à cause de ça. Ils ont noté que quand vraiment ça n'allait pas. Donc, et c'est assez courant dans les gens que je connais, des fois qu'ils ne veulent pas y aller juste parce qu'ils ne veulent pas accepter peut-être une pouvaient donner à vous. Je pense que quand on va chez le médecin, une catégorie exagère, mais une grosse catégorie va juste parce que vraiment ça ne va plus. Mais...
Voilà, c'est un autre phénomène. Vous allez voir que c'est très fort lié au premier. Je vais expliquer. Quand on va chez un médecin, même s'il y a l'exagération, le but éventuel, c'est d'avoir un bénéfice qui peut être soit personnel, soit transmis à quelqu'un. Genre, la maman qui vient avec son enfant en disant « Regardez, mon enfant, il est malade, je vais devoir le garder encore aujourd'hui, donc je n'irai pas travailler. » Qui veut aussi un certificat, par exemple, et qui, l'enfant n'est pas forcément malade, mais peut-être bien avoir quelque chose, une espèce de syndrome de soit pas une chose, si l'enfant n'a rien, mais par proxy, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un individu. Il y a un repli qu'on appelle un repli narcissique, la personne se retourne vers soi, elle veille à étaler le fait qu'elle n'est pas bien, qu'elle s'en fout des autres, que tout ce qui compte. Ce qui importe, c'est sa personne et ce qu'elle peut recevoir, l'aide qu'elle peut recevoir, la considération qu'elle n'a jamais eue, qu'elle peut recevoir, par exemple. Dans le cas que décrit votre collègue, ce serait plutôt le cas d'un déni, de ne pas être à l'écoute de son corps en ne reconnaissant pas, en n'acceptant pas les signaux qui viendraient signaler une perturbation de son intégrité physique, entamant par l'illusion d'une immortalité, qui est souvent présente chez chacun d'entre nous. Si chacun devait réfléchir chaque jour à sa mortalité prochaine, alors qu'on ne sait pas quand ça arriverait, etc., etc., ce serait quand même un petit peu plombant. Et donc, encore une fois, est-ce qu'on peut faire le reproche de personnes de se dire qu'ils sont dans un certain déni? Déni qui ménage dans narcissisme, dans la mesure où c'est cette illusion d'immortalité, cette illusion de toute-puissance, y compris la toute-puissance sur la mort, qui est ménagée avec ce déni. Nous avons, dans un cas comme dans l'autre, affaire à une expression d'un certain aménagement narcissique, d'un côté qui va aller chercher l'attention, et de l'autre côté, qui va se prémunir d'une remise en question de capacités intrinsèques, même celles qui sont illusoires, fantasmées, et qui iraient contre la mort elle-même. Donc l'exagération, peut-être, mais jamais à considérer exclusivement comme telle, à interpréter avec les mécanismes de défense éventuels que la personne a, et mécanismes de la maladie elle-même qui conduisent à une expression qui permet de se recentrer sur soi. N'est-ce pas la première étape quand on est malade? C'est d'essayer de voir ce qui se passe, de moins se préoccuper des autres, etc. Donc, il n'y a jamais de situation dans laquelle la personne ne sera pas impliquée d'une manière ou d'une autre dans l'identification, le développement et la résolution d'un problème. On pourrait imaginer... On pourrait imaginer que votre... montre connectée, vos senseurs sur les WC par exemple, pour analyser le sel, parce que ça existe déjà dans vos trucs, dans le miroir, dans le truc, machin, vous mesure en permanence, qu'il n'y ait pas de biofeedback, mais que par contre ce soit analysé par une sorte d'intelligence qui viendrait pour intervenir tout en étant que vous y seriez totalement insensible.
pas inquiet, pas tracassé d'avoir ces mesures-là. Est-ce que ce serait tenable? Est-ce que ce serait gérable? Est-ce que vous vous impliqueriez là-dedans ou pas? C'est une bonne question. Alors, les succès de la médecine ont modifié notre perception des médecins et de la médecine elle-même. On est arrivé à un droit à la santé. Alors, il y a le pouvoir du médecin. Le médecin et la médecine scientifique a pris le relais du sorcier, du chaman, et s'y substitue un savoir sûr et vérifiable à cette magie primitive. Alors, la technicité, cependant, ne diminue pas l'investissement magique. Il semble, au contraire, que les succès de la médecine issue de la technicité croissante et de son effort de rationalité n'aient guère diminué l'investissement magique de la médecine et des médecins auxquels on demande plus qu'ils ne peuvent donner et desquels on attend une protection de plus en plus étendue contre les risques de la vie. Le médecin se substitue parfois à une assurance contre les risques de la vie. Il devrait suivre, voire prévenir, la médecine préventive, tout ce qui peut se passer. Et cet investissement est souvent en lien avec des attentes non pas insensées, mais irrationnelles. Dans le champ même de la pathologie lésionnelle, les progrès médicaux nous permettent de mettre en évidence le poids de facteurs irrationnels. Alors, il y a l'effet placebo, est un effet efficace, et l'adhérence au traitement ou son observance, qui sont deux moyens de voir l'impact qu'un individu va avoir sur la fonctionnalité d'une intervention soignante. L'effet placebo, vous avez déjà vu ça plusieurs fois, l'effet placebo? En quoi, dites-moi? Je n'ai pas entendu. En biostatistique, ouais. Voilà, on va voir les aspects psycho là-dessus. On appelle l'effet placebo les modifications objectives et subjectives de l'état du sujet auquel on a administré en milieu médical un corps sans action pharmacodynamique propre, appelé placebo, qui veut dire « je plais ». Facteurs liés au médecin, donc c'est le double aveugle pour pouvoir diminuer cet effet placebo, les facteurs liés aux médicaments, bien sûr. Alors, des facteurs liés aux médecins et aux soignants, les médecins optimistes obtiennent de meilleurs résultats que les médecins pessimistes ou sceptiques. Donc, si vous êtes a priori optimiste, vos patients vont avoir une meilleure résolution de leurs problèmes, de leurs symptômes. Pas mal. Donc, il faut travailler ça chez vous. Un médecin affichant une attitude expérimentale sera moins efficace qu'un médecin présentant une attitude thérapeutique. Je vais vous donner ça, ça va vous aider. Ça va vous soigner. Ou, on va toujours essayer ça, vous savez, c'est vraiment pas sûr que ça marche. D'ailleurs, moi j'ai une obligation de moyens, pas de résultats. Vraiment, on va voir si ça marche pas. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres qui m'en veulent parce que ça marche pas, ils n'ont rien compris. C'est un discours qui est un petit peu. Qui peut être éventuellement important, mais qui pourrait être adapté à un esprit scientifique qui ne veut certainement pas qu'on lui dise que quelqu'un a la connaissance pour soigner. D'ailleurs, le langage lui-même ne permet d'exprimer qu'une partie de ce qu'on veut exprimer par rapport à un trou. Donc comment est-ce que l'autre individu qui est en face de moi peut me comprendre un tant soit peu alors qu'il n'est pas dans ma tête? Bon. Il faudra voir à qui vous pourrez afficher tel ou tel discours optimiste ou thérapeutique ou avec les précautions oratoires nécessaires. Alors les malades qui jugent leur médecin de chaleureux s'améliorent mieux que ceux qui jugent leur non chaleureux. J'imagine, particulièrement en hiver, ou une crise énergétique. Mais il faut travailler ça chez vous, hein. Optimisme, chaleur et aspect thérapeutique. Des explications différentes données aux malades sur le même traitement peuvent en influencer sensiblement l'effet. C'est ce qu'on vient de dire. Il faut vous en soyez conscient. Ce que vous allez dire aura un impact sur l'individu en face de vous. Et alors, à chaque fois, je prends pour exemple. Si vous vous souvenez, l'ombre d'un instant maintenant, est-ce que vous avez déjà été heurté
par une insulte, un mot de travers, une remarque indélicate réalisée par un de vos proches ou par un individu que vous ne connaissez pas dans la rue. Vous avez déjà eu ça ou pas, Yannick ? Déjà que vous avez été heurté de ça ? Levez un peu la main pour ceux qui ont déjà été heurtés pour le truc. Et combien est-ce qu'il y avait de mots dans l'intervention de ce personnage ? Vous deviez compter le nombre de mots. Pas quelqu'un qui veut donner un exemple ? Dites-moi. Très peu de mots qui ont un impact. Très peu de mots peuvent avoir un impact durable. Et assez bizarrement, les soignants progressent en développant une technique, des capacités techniques, et en oubliant la parole. Alors que leur parole, qui peut être une parole d'encouragement, courage, ça va arriver, ou à la prochaine fois, ou n'importe quoi d'aussi trivial, peut-être éventuellement les seules choses auxquelles la personne peut se rattacher d'une visite à l'autre, et parfois les seuls échanges de paroles que la personne aura eu sur sa journée, sur sa semaine, voire plus. Donc, soyez toujours prudents, ce que vous dites a de l'impact, particulièrement quand ça vient d'une personne pour laquelle vous avez un certain nombre d'attentes, et particulièrement quand cette personne représente quelque chose au niveau social. Donc ce sera votre position en tant que médecin. Alors les facteurs liés aux médicaments, l'effet placebo présente des caractéristiques identiques à celles d'un effet pharmacologique vrai, ça vous le savez, peut s'accompagner d'effets secondaires indésirables liés au degré d'hostilité du sujet et à la placebo-sensibilité. Et la placebo-sensibilité est plus grande si le sujet accepte volontiers le traitement. Donc à retenir pour l'effet placebo, dans l'effet placebo vont intervenir quatre facteurs, le symptôme et le complexe syndromique, c'est-à-dire la maladie, le malade et sa personnalité, le placebo lui-même, sa voie d'administration, plus actif en injection que perosse, c'est coloré qu'incolore, amer qu'insipide, et le médecin. L'action d'un médicament est donc due à son activité pharmacodynamique, à l'attitude du médecin, à sa croyance en son efficacité et en la confiance que lui porte le malade, à l'attitude du malade, à sa croyance en l'efficacité du médicament. Du coup, deux réflexions par rapport à ça. Est-ce que pour vous, les médecins sont plutôt en faveur de l'effet placebo ou pas ? Est-ce que c'est le copain du médecin, l'effet placebo ? Ouais ? Levez un peu la main. La main, il y a ceux qui disent oui. Et ceux qui disent non, levez un peu la main. C'est bon. Tous ceux-là, s'ils mangent jamais de chocolat, c'est ça, ceux qui ne répondent pas ? Vous suivez un petit peu ce qu'on dit là ? Alors, qui a dit oui pourquoi, dites-moi, qui va intervenir ? L'effet placebo, c'est le copain du médecin, oui, pourquoi ? Vous voulez intervenir ?
Oui.
Allez, vous écoutez.
Parfois, la prise de médicaments pour un bien, dans le cas où l'effet placebo pourrait marcher, c'est inutile et ça pourrait générer des résistances dans le cas des antibiotiques ou autre. Alors que
donner
un placebo et que ça fonctionne.
C'est pas faux, non. Mettre un placebo à dos antibiotique, c'est quand même un petit peu fabuleux de le faire. Je pense avoir plus ou moins compris votre exemple. Et quelqu'un a dit non, c'est pas le copain du médecin. Non, personne. Mais vous êtes habitué à consommer des choses et pas à participer. On vous pose jamais de questions en cours. Si, quand même. Faut que je désigne des gens, vous êtes préférés quand je désigne des gens. Alors, madame qui s'appuie sa tête sur le. Oui, vous.
Oui,
non, 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 juste devant. C'est vous qui venez de vous retourner. Oui. Vous diriez plutôt oui ou plutôt non. Oui, pourquoi ?
Parce que la vie, ça peut plus aider le médecin.
Dans les études cliniques, clairement, il y a une lutte contre l'effet placebo, puisque cette capacité à avoir un effet fonctionnel intrinsèque n'est pas dans le sens d'une efficacité d'une molécule de manière intrinsèque en dehors du champ d'action de l'individu sur la molécule qu'il reçoit. Et on sait, par exemple, que dans des administrations de neuroleptiques retard, de neuroleptiques en urgence pour des personnes qui sont vraiment fort agitées versus l'administration de solutions salines, on sait que l'administration de solutions salines vont diminuer de manière extrêmement significative l'agitation des personnes. Alors, il faut bien sûr imaginer les personnes qui sont proposées, il faut plusieurs personnes pour les tenir, il faut faire une piqûre dans une fesse qui est probablement, ou dans un bras qui est probablement contracté, donc ça fait mal. Donc il y a tout un décorum autour de ça. Et ce décorum peut avoir un impact sur la suggestion d'une diminution de l'impulsivité. Et donc, en ce qui concerne la recherche clinique, l'effet placebo n'est pas vraiment cherché. On essaye même de l'exclure pour pouvoir dire qu'il y a tel effet actif dans cette micro. Sinon, dans toutes les autres circonstances, l'effet placebo, c'est bien sûr le copain, l'aide du médecin dans la mesure où cela permet d'aider le patient. Tout ce qui aide le patient, c'est bon à prendre, bien sûr. Pour le médecin, il s'agit pas d'avoir raison que c'est ça qui soigne ou que c'est ça qui soigne. Il s'agit d'aider le patient. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas connaître sa médecine ? Non, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas utiliser de cette connaissance qu'un impact utilisant la suggestion, puisqu'il s'agit de ça, la suggestion, je crois que ça va vous aider. Ça pourrait même vous aider de manière beaucoup plus naturelle qu'un médicament chimique qui pourrait être possible.
Avec tout un discours qui peut être donné dessus, va pouvoir aider la personne. Et ce n'est pas parce que la personne le sait que c'est un effet placebo qu'il ne marche plus. Ça peut même être déclaré. Ou sinon, vous mettez sur votre ordonnance, sine conditione interna, ce qui veut dire quoi pour... C'est qui a fait du latin ici? Oui, dites-moi. Excellent. Sine conditione interna. Donc, on ne met pas la notice à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez demander ça au pharmacien. On ne met pas la notice. Comme ça, la personne ne va pas aller lire. Ça tenait la route quand il n'y avait pas Internet, bien sûr. Maintenant, les gens vont lire tout. Mais vous pouvez leur dire, il y a tout qui est écrit, de toute façon, dans votre notice. Et surtout, retenez bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas notées. Tous les effets secondaires que les gens vont avoir dès aujourd'hui ou dès la publication de la notice et pour les temps à venir ne sont pas encore notés. Donc ce n'est pas parce que c'est noté que vous allez l'avoir, mais parce que ce n'est pas noté que vous n'allez pas l'avoir. Et en ce faisant, vous convoquer quelque part ces aspects de crainte, d'anxiété, d'irrationalité par rapport au fait de se dire « Ah oui, je vais encore avoir ça, parce qu'il n'y a que moi qui ai les affaires comme ça, ça tombe toujours sur moi. » Donc, vous allez convoquer différents aspects irrationnels. Ah, mais dans un sens qu'on a... Et l'accès à l'information ne vient pas changer grand-chose. À partir du moment où vous en faites quelque chose et que vous le reprenez au moment de votre consultation. L'adhérence au traitement ou observance, qui est un autre... aspect montrant l'impact toujours bien présent de ces aspects magiques et irrationnels malgré la technicité augmentée des interventions. Alors pour les facteurs de non-observance, la maladie. Alors le taux de non-observance est d'autant plus important que l'affection est moins ressentie par le malade. Si vous ne sentez pas que vous êtes malade, vous ne prenez pas vos médicaments. Le sujet, pas de corrélation avec les caractéristiques démographiques telles que l'âge, le niveau intellectuel,
La personnalité du malade est sûrement un des facteurs primordiaux. Peut-on lire le traitement, la complexité du traitement, sa durée, le nombre de médicaments prescrits interviennent dans, dans la non-observance. Ça, c'est du bon sens. Hein, si vous avez plein de médicaments à prendre, et puis dans des conditions particulières, ben, vous risquez de louper des prises. Le médecin, son comportement, la relation médecin-malade joue souvent un rôle considérable. L'observance est nettement meilleure si le prescripteur est amical et compréhensif. S'il s'inquiète des soucis du patient, s'il est facilement communicatif. Iriez-vous prendre un remède d'une personne antipathique qui vous traite comme de la merde et qui pourtant vous dit « Moi, je suis médecin, je sais ce que vous devez prendre, prenez-y. » Est-ce que vous seriez enclin à faire ? Alors, il n'y a pas de réponse naturellement monolithique. Certaines personnes qui cherchent quelqu'un pour les maîtriser, qui cherchent, on va dire, un équivalent d'une figure paternelle, autoritaire, qui leur dit « Prends ceci, ne te pose pas de questions, c'est moi qui ai raison. » Dans une attitude qui ne serait pas collaborative, mais patriarcale, probablement seront satisfaites et contentes de ce genre de relation. Et jugeront même un peu mièvre une relation qui serait de dire « Ben, écoutez, je vais demander votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de vous ? Est-ce que vous allez savoir le prendre ?» et qui noterait sous ces couverts de questionnement ou de respect une éventuelle hésitation du médecin. Toute demande et toute suggestion et tout conseil étant à prendre, bien sûr, dans une interaction que le médecin va avoir avec son patient. Alors, c'est cette notion de médicalisation de la vie, hein, la foi dans les miracles de la médecine et l'inflation de la demande médicale qui est ici abordée. La médecine est la seule institution sociale dont les dépenses ne sont pas a priori limitées. Et même le refus de soins fait encourir des peines judiciaires. Donc non seulement c'est nos limites au niveau des dépenses de soins, mais en plus, si vous refusez de soigner quelqu'un, on peut vous poursuivre. Alors, vous voyez, la gestion du budget est difficile. La réponse à la gestion budgétaire des dépenses de soins de santé, elle passe, entre autres, par la limitation du nombre de médecins. Parce qu'on peut estimer qu'un médecin vaut... Un médecin, quelle que soit sa spécialité, va dépenser autant sur une vie, et donc, plus il y en a, plus il y a de dépenses. C'est aussi simple que ça. C'est un modèle économique assez basique qui fait que la limitation de l'offre va limiter les dépenses. Mais ça va un peu à l'encontre de cette médicalisation de la vie et de ces demandes de plus en plus importantes qui font que les patients, c'est-à-dire vous, moi, toutes les personnes qui vont demander quelque chose à la médecine, les demandes vont être de plus en plus importante. Pourquoi attendre un dépistage à un tel âge, alors qu'on sait que dans certains cas, ça peut commencer plus tôt? Pourquoi ne pas augmenter le nombre de tests de ceci, le nombre de prises de sang de cela, etc., etc. Alors, le médecin voit son label utilisé à des fins publicitaires, le qualificatif de médicinal devient pour bien des produits d'une garantie de succès, la médecine peut être amenée à remplacer le système défaillant des valeurs morales individuelles. Devant des situations conflictuelles d'inadaptation sociale, quel qu'en soit le type, la tentation est grande de substituer les critères du normal et du pathologique aux valeurs morales, tant il est vrai qu'une société ne peut fonctionner sans système de référence, c'est-à-dire sans valeurs. Donc, c'est la place du médecin dans un système de valeurs. Le cours termine à quelle heure ici ? 16h en 3 minutes. Alors j'ai encore 3 minutes. La maladie est un fait culturel. Le professeur Sournia remarque que dans nos types de sociétés, on considère comme malade, c'est-à-dire comme ayant droit aux soins médicaux, celui qui se ressent comme tel. La personne dit « Je suis malade ». Malade, comme dans la chanson. Et le fait de le dire objective la chose. Si elle est objectivée et s'accompagne outre ce symptôme de déclaration d'un état de malaise subjectif par l'identification de signes par un tiers soignant, si ça s'accompagne, c'est la confirmation qu'il y a bien une maladie. Et s'il n'y a pas, il y a quand même un trouble. Quelqu'un qui se dit malade alors qu'il ne l'est pas pour un autre. Et s'il y a ce trouble, que fait le malade qui se sent malade et que l'autre n'identifie pas comme tel, il va voir un autre soignant dans un but de confirmation, d'identification. Soit qu'il remette en question ses propres perceptions en disant « je suis content, vous m'avez rassuré », soit qu'il aille voir quelqu'un d'autre de plus compétent, de plus à l'écoute, de plus compréhensif. Mettre le nom de maladie sur cette sensation pénible, ce malaise que ressent l'individu, est un fait culturel. L'idée de la maladie dépend de ce que lui en a appris la société, par ses parents, son éducation, ses conversations et ses lectures. On rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, vous pourrez, et c'est ce qu'on observe chez les médecins, vous retrouver dans un état où vous pourriez, vous, être malade, mais pas pour les critères que vous souhaitez vous appliquer à vous, mais bien pour les critères que vous allez appliquer à la personne en face de vous. Que vous a appris la culture sur ce que signifie la maladie pour un médecin, ce que signifie être malade tout court, et ce que peut vous rapporter le fait de le dire ou de ne pas le dire, ce que ça va entraîner ou pas. Est-ce que c'est insignifiant ou est-ce que ça va éveiller en vous d'autres choses. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.